L'écoféminisme, qu'est-ce que c'est ? Si on découpe ce mot, on peut se dire qu'il s'agit d'une sorte de mélange entre écologie et féminisme, et quelque part, on aurait raison. Mais derrière ce mot écoféminisme se cache toute une histoire, tout un courant de pensée. Ce courant de pensée, je le découvre en 2022. J'ai alors 22 ans, je débute ma carrière de journaliste, l'Université de Caen et l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine lui consacrent un colloque. Je m'y rends, un peu au hasard, sans me douter que j'allais rencontrer des militants et militantes, historiens et historiennes, et aussi toute une jeunesse à fond sur les enjeux écoféministes, passionnés par ces luttes anciennes ou contemporaines. Je suis Simon de Radio Campus Angers, et vous écoutez Génération plus 3 degrés, une série de 3x3 épisodes de Radio Phoenix, Radio Campus Angers et Radio Campus Orléans. Et pour cette première trilogie, je vous parle d'écoféminisme. Mais pour mieux comprendre ce qu'est l'écoféminisme, il faut avant tout comprendre ce qu'il n'est pas. Pour cela, direction Nantes, à la rencontre de la chercheuse Delphine Sangu.
L'écoféminisme, en fait, c'est pas essentialiste. C'est-à-dire qu'on dit pas que les femmes sont la nature, que la nature est les femmes. C'est pas du tout ça. On travaille pas non plus sur des sorcières, en tout cas pas uniquement. L'écoféminisme, à la base, c'est une théorie assez sérieuse, créée par Françoise Aubonne dans les années 70. Et en fait, ce qu'elle établit comme parallèle, c'est un parallèle entre la destruction de la nature par les hommes étant ici les individus de sexe masculin, et l'oppression des femmes par les hommes. Tout cela dans le cadre d'une société patriarcale et capitaliste. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant dans sa pensée, si on vraiment prend l'origine, c'est qu'elle la forge à partir de deux mots, écologie et féminisme, qui donnent donc écoféminisme. Et c'est vraiment, j'insiste, sa réflexion est pionnière dans le sens où elle fait un parallèle entre comment sont exploitées les femmes et comment est détruite la nature.
Françoise Aubonne, c'est donc elle la pionnière de l'écoféminisme. Une femme engagée, autrice, philosophe et même chanteuse.
Marie n'est plus à la fontaine, elle ne va plus quérir l'eau. Elle ne file plus la laine, Marie a quitté ses sabots. Où es-tu, Marie, que ramène
de... Et pour mieux comprendre qui est Françoise Aubonne et comment est né l'écoféminisme, je me rends chez son fils, Vincent.
Bonjour.
Bonjour Simon, entre. Bienvenue dans mon univers qui est aussi, pour beaucoup, celui de Françoise, avec sa bibliothèque, 80 de ses livres, plus les rééditions récentes, le reste étant une bibliothèque de travail qui est totalement en relation avec ses livres d'ailleurs. Voilà, la plaque du 14e arrondissement et toute une série de choses et d'objets qui lui ont appartenu d'ailleurs. Alors Françoise est quelqu'un qui est totalement hors norme par bien des aspects, mais dans ces aspects hors normes, dans ce qu'elle était elle-même, il y a d'abord une mémoire photographique qui lui permettait, par exemple, jusqu'à la quarantaine, d'ouvrir un livre, de le lire et de le réciter après. Mais il y avait aussi chez elle la capacité à agréger les idées et à aller les chercher pour les mettre en relief et en comparaison qui lui permettait d'être une véritable bibliothèque vivante. À 16 ans, 17 ans, elle connaissait toute l'œuvre de Rimbaud en vers par cœur, par exemple, etc., etc. Je pourrais citer de nombreux faits comme ça. Et elle s'est construit une pensée au fil du temps que l'on peut toujours voir sous le prisme de l'écoféminisme comme étant en construction, puisqu'en 51, elle prend la défense de Simone de Beauvoir à travers le complexe de Diane. 51, c'est en 49, Simone de Beauvoir a sorti Le deuxième sexe, un des livres les plus importants de ces derniers siècles d'ailleurs, enfin, à son avis et au mien aussi. Et donc, elle soutient en défense la philosophe, mais elle la contredit aussi. Être amie avec Simone pendant 30 ans, c'était pas « bon, salut, toi ça va, moi ça va, bah ça va, bah salut ». Non, c'était des débats d'idées puissants, etc. Sinon, Simone très vite laissé tomber. Et donc, Françoise construit son chemin à travers cette rencontre. Elle l'a construit aussi dans la résistance.
Elle l'a construit déjà en banc avec sa famille, mais elle l'a construit aussi dans la résistance. Elle l'a construit après au Parti communiste, parce qu'à la sortie de la guerre, elle rentre au Parti communiste, qu'elle quittera pendant la guerre d'Algérie pour deux raisons principales, parce qu'elle trouvait la position du PC par rapport à l'Algérie insoutenable, et parce qu'elle avait déjà des frictions en interne sur la place des femmes dans la société, pour le dire très globalement. Le PC étant aussi sur ces côtés-là des mœurs et des évolutions sociales et de ses considérations, aussi à l'époque figées que l'était la droite gaulliste. Et donc, Françoise fait son chemin, et un jour, un ami qui s'appelle Alain Zweig lui parle du rapport Meadows. Rapport Meadows qu'avait produit le Club de Rome. Alors pour les auditeurs, j'en rappelle très vite ce qu'était le Club de Rome et le rapport Meadows, même si c'est un petit peu connu maintenant. Club de Rome, c'était une assemblée de politiques, d'industriels, de scientifiques transnationaux qui s'interrogeaient sur les effets de la croissance sur le système mondial. À l'époque, on ne parlait pas d'une planète vivante, mais on se disait déjà qu'il y avait peut-être des limites. Il en est sorti un rapport, lequel rapport montrait que si on continuait sur ce rythme-là dans la consommation des ressources, vers les années 2030, à peu près, la bascule se ferait, on arriverait au bout de ce qui était, disponible en termes de ressources. Donc là, elle a fait le lien immédiatement avec Simone Veil, avec le déracinement, voilà. Elle a fait le lien avec la place des femmes, parce qu'elle s'intéressait déjà dans ces années-là sur l'histoire anthropologique des femmes. Et elle en a conclu, en termes écoféministes, qu'il y avait un rapport évident dans la manière dont on traitait la planète et la manière dont on traitait les femmes. Voilà, c'était le patriarcat, qui était pour elle un synonyme du pouvoir. C'est cette prise de conscience, elle a dit, avec ma lenteur d'esprit, j'aimerais bien avoir la même qu'elle, il m'a fallu un an pour comprendre ce lien, parce qu'avant les années 70, la question de l'écologie ne la concernait absolument pas. Le mot n'existait pas dans la société civile, de toute façon. Il n'existait que dans le monde scientifique.
La cigale ayant goëlé tout l'été, se trouva sans un rotin, quand vint le temps glagla si dur au pur rotin. Elle tant qu'à la lourde d'une capitalo, la fourmi.
Le mot écologie n'existait donc pas, ou à peine, même si des premiers soubresauts commencent à se faire sentir.
Il commence vraiment à naître avec la candidature de Dumont en 1974. René Dumont qui se présente, agronome qui se présente et qui, dans la continuation du rapport Meadows, alerte sur le fait qu'on court à la catastrophe et qu'il faut changer de modèle. À l'époque, pendant un an ou deux, ça a fait du bruit. On commence à utiliser le mot décroissance. Il y a même, si on fouille dans les archives de l'INA, Valéry Giscard d'Estaing qui s'exprime sur la décroissance. Voilà, donc il y a un vrai début de débat d'idées qui est très vite enterré.
Un contexte difficile, donc, pour le militantisme écologiste. Et bien évidemment, il en était de même pour le militantisme féministe. Mais ça n'a pour autant pas empêché Françoise Debonne d'être sur tous les fronts.
Alors, outre le militantisme de papier, parce qu'elle a écrit 100 livres, elle a légué 3 mots à la langue française, sexocide, à propos des sorcières, phallocrate, à l'époque on parlait de chauvinisme mâle et où on cherchait dans le mouvement un mot qui claque, et puis bien sûr écoféminisme, voilà pour les 3 mots. Outre ça, et tous les articles, etc. qu'elle a écrits, ça a été de participer ou de créer de nombreux courants, de nombreuses associations, de nombreux comités de lutte dans énormément de domaines. Puisque pour elle, toute lutte qui va au bout d'elle-même rencontre forcément tous les autres. Donc on la retrouve dans les comités d'action de prisonniers, on les retrouve à tenter d'emmener dans le maquis des déserteurs de la guerre d'Algérie, on la retrouve aux fondations de Front homosexuel d'Armes révolutionnaire, on la retrouve dans des comités contre l'excision, on reçoit des lettres d'Iran parce qu'à l'époque, dans les années 90, dans ces dernières années, elle s'est beaucoup exprimée sur le sort des femmes en Iran, on la retrouve en fait un peu partout.
Les combats de Françoise Debonne allaient donc bien au-delà de la simple question de l'écologie et du féminisme. Et pour se faire entendre, elle n'hésitait pas à y aller de sa méthode.
C'était une militante de terrain, c'était aussi une combattante. Donc je parlais de la résistance, ce qui fait qu'elle avait un rapport à l'action très différent de celui qu'on a aujourd'hui, mais qu'on est en train de retrouver. Elle n'hésitait pas, s'il le fallait, à s'armer de saucissons secs bien lourds, parce qu'en cas d'arrestation, ça permet d'avoir une amende de 4e catégorie, de 7e catégorie, non pas de 4e catégorie, et de charger le service d'ordre du GUD, qui, je le rappelle, à l'époque, était formé par les anciens de l'OAS, etc. Ils n'étaient pas plus tendres que les fachos d'aujourd'hui. Mais ça ne l'empêchait pas d'aller au combat et de faire le coup de poing quand nécessaire. Elle avait eu l'exemple de sa grand-mère, qui faisait le coup de poing aussi pour accéder aux cours de Marie Curie quand les hommes voulaient empêcher les femmes d'accéder à l'université. Donc son militantisme, il était parfois très engagé physiquement. Elle avait un gros courage physique et elle n'hésitait pas à y aller quand il fallait.
Ce petit qu'il faut qu'on fusille, on le mena devant la croix.
Évidemment, cette manière de faire divise et bouscule la société, encore très conservatrice. Pour s'imposer, Françoise de Bonne doit donc aussi compter sur une de ses qualités qui lui est bien utile.
Elle y arrivait parce qu'elle avait un verbe, une assurance et un verbe extrêmement puissant. Il y a un débat assez symbolique sur une émission littéraire où elle est face à Jean Lartigui. Jean Lartigui, ça ne dira rien aujourd'hui aux générations. Jean Lartigui était un ancien officier militaire, réserviste, officier réserviste, donc journaliste et écrivain des aventures coloniales françaises de l'armée. Les centurions à propos de Dien Bien Phu, la guerre d'Algérie, etc. Et il avait, dans les années 76, sorti un livre qui s'appelait « Lettre ouverte aux bonnes femmes ». Sikh, hein. On revient de loin, mais à l'époque, voilà, on pouvait tranquillement écrire, sortir un livre qui s'appelait « Lettre ouverte aux bonnes femmes », ça posait pas de problème, tu vois, un autre monde. Hein. Et bien évidemment, et il se retrouve en face, à côté de Françoise d'Aubonne, et puis lui, qui est avec son assurance d'officier de combat, etc., qui a fait la résistance, etc., il se fait complètement déborder par Françoise d'Aubonne, il lève les bras au ciel, il n'y arrive plus, quoi. Donc elle avait vraiment le verbe très très fort. Quand elle prenait la parole, c'était quelqu'un a dit que c'était une force primordiale, en quelque sorte. Moi, je me souviens d'avoir l'avoir accompagnée dans les années 80 à un procès d'un militant. Et elle a dit « Attends, bouge pas, le procès, il va pas se finir ». Et elle a commencé, à un moment où elle a pris la parole, elle venait témoigner, elle a pris la parole, et elle a utilisé l'humour d'une manière politique, mais elle l'utilisait tellement bien que les assesseurs, l'avocat, le procureur étaient cassés de rire. Et le juge, au bout d'un moment, il n'y arrivait plus non plus. Il se retenait comme il pouvait, il a pris son marteau, il a tapé, il a dit « on ajourne, on va pas y arriver avec Françoise d'Aubonne, on va pas y arriver ». Et donc, elle avait une parole publique extrêmement puissante. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsqu'elle a été impliquée dans l'attentat contre la centrale de Fessenheim, qu'elle a fait sauter, donc, comme l'a rapporté David Dufresne, comme elle a posé la dynamite et fait sauter un bout de centrale nucléaire en construction, j'ai du mal à croire que la police de l'époque n'ait pas pu détecter à la revendication et n'ait pas pu retracer l'attentat et n'ait pas pu leur courir après. Je crois beaucoup plus qu'ils ont préféré faire les morts pour éviter d'avoir un débat public dont ils ne voulaient sûrement pas, et surtout avec Françoise d'Aubonne. Rappelons que des attentats, ça a été le premier probablement, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup après en France. Des attentats, des sabotages contre le nucléaire, qui ont été totalement passés sous silence et dont on a très peu la mémoire aujourd'hui. Ça a été la stratégie du pouvoir à l'époque, c'était de « on reconstruit, c'est pas grave, on invisibilise ».
Paraît que nous faisons pitié, parce qu'en notre lit douillet, nous n'acceptons pas selon l'us de loger chez nous un phallus.
Malgré cet activisme offensif, la mémoire de Françoise d'Aubonne s'est peu à peu effacée avec le temps, du moins dans les pays occidentaux. C'est particulièrement les années 80 qui vont peu à peu l'invisibiliser, elle et ses combats.
Ce qui a probablement participé beaucoup à son invisibilisation, c'est la victoire de la gauche en 81. parce qu'après que la victoire de la gauche en 81 est plutôt un an et demi, deux ans après, est venu le tournant libéral du Parti Socialiste, l'arrivée de Bernard Tapie comme modèle de société, etc., les années fric, qui étaient l'antithèse de tout ce pour quoi elle se battait, et qui ont ramené la société française à des considérations beaucoup plus matérialistes et immédiates. L'ouverture de l'actionnariat aux tout petits porteurs, la transformation aussi des mécanismes économiques pour que l'actionnariat puisse se faire non pas sur l'investissement industriel, mais sur l'argent. Chose très peu connue du grand public, mais ça a été le tournant majeur qui a permis le capitalisme ultralibéral d'aujourd'hui. Il fallait débloquer ce verrou. Avant, on investissait, bon, je le fais à la très grosse et je ne suis pas économiste non plus, mais avant, on investissait quand même dans l'outil de production. Là, on pouvait commencer à investir sur l'argent, on en voit aujourd'hui les dégâts faramineux. C'était une mécanique concertée pour effacer un moment où la population avait pris un peu la parole. C'est pas les gens tellement qui sont fatigués, c'est qu'en face, l'offensive s'est mise en place avec l'argent nécessaire, comme elle se fait aujourd'hui avec Bolloré, etc. Voilà quoi, c'est plus de cet ordre-là. Et ça a participé à son invisibilisation, mais cette invisibilisation, c'est le nom aussi de toute une série de fins de lutte qui ont duré pendant 10 ou 15 ans où il ne se passait rien, quoi.
Cet essoufflement, décrit par Vincent Debonne, il va petit à petit laisser place à un regain des idées écoféministes. Aujourd'hui, la figure de Françoise Debonne et sa pensée reviennent sur le devant de la scène à travers une nouvelle génération. Mais alors, pourquoi et de quelle manière? Ça, c'est ce que nous verrons au prochain épisode. C'était Génération plus 3 degrés, une série audio proposée par Radio Campus Angers, Radio Campus Orléans et Radio Phoenix. Archives sonores, Marie-Myriam Meriem, La cigale et la fourmi, Le fiacre, Les trois cigarettes et L'hymne du phare. Interprété par Françoise Debonne et à retrouver sur le site françoise-d-aubonne.org.